Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La question migratoire est centrale en Libye, et cela depuis 1969 et l'accession au pouvoir du colonel Kadhafi. À l'époque, la Libye accueille de nombreuses nationalités de la région, celles venues d'Égypte ou du Maghreb pour accompagner l'industrie pétrolière, puis les suivantes venues de la Corne de l'Afrique et du continent subsaharien pour répondre à des situations politiques et économiques défaillantes. La question migratoire n'a pas disparu avec le colonel en 2011, elle s'est même intensifiée en raison de l'instabilité du pays, au point de devenir un point de friction majeur avec l'Europe. Ce constat est dressé par Delphine Perrin, notre invitée ce dimanche. Un entretien mis en onde et réalisé par Mathias Golchani à réécouter sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Delphine Perrin.
Bonjour Éric Bataillon.
Chercheuse à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement, Unité de Marseille, et nous sommes en ligne avec vous depuis la capitale phocéenne. Delphine Perrin, la question migratoire n'est pas nouvelle en Libye. Au début des années 70, l'arrivée au pouvoir du colonel Kadhafi s'accompagne d'une forte immigration. Qu'est-ce qui explique cette soudaine attractivité forte de la Libye pour les migrants ?
Oui, alors c'est vrai qu'il est important de rappeler que la Libye est un pays de forte immigration depuis les années 70, donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Et en réalité, l'arrivée au pouvoir de Kadhafi en 69 coïncide avec les débuts d'exploitation d'hydrocarbures dans le pays. Donc cette activité va générer des ressources et même devenir une rente qui sera vectrice d'immigration, surtout parce qu'elle rencontre la politique de Kadhafi. Alors la politique d'abord extérieure de Kadhafi, puisque dans les années 70, il a des visées unionistes, même dans le cadre d'une politique pan-arabe avec ses voisins, notamment l'Égypte, la Tunisie. Les migrants vont être un instrument finalement de cette diplomatie, puisqu'il va ouvrir son marché d'abord aux ressortissants de ces États. Et c'est aussi le fait de sa politique intérieure. Bon, Kadhafi avait donc développé toute une idéologie très particulière, notamment dans son livre vert, et il va tenter de développer un État-providence et même mettre fin au salariat pour les Libyens. C'est-à-dire que le marché du salariat va être principalement le fait des étrangers.
Alors justement, d'où viennent ces migrants travailleurs? Combien sont-ils et surtout, comment sont-ils traités par le régime libyen?
Alors, les migrants d'hier comme d'aujourd'hui, d'ailleurs, viennent principalement du voisinage de la Libye. L'Égypte, la Tunisie, mais aussi le Sud, au Sud, le Niger, le Tchad. Et on peut dire que la réalité du terrain rencontre en fait les ambitions politiques du leader libyen, parce qu'il y a des opportunités de travail que les ressortissants du voisinage vont bien sûr saisir. C'est normal finalement que des Tunisiens et des Égyptiens viennent travailler en Libye puisqu'il y a de l'offre de travail. Et ces venues vont être favorisées par la politique de Kadhafi, donc, qui promet d'abord surtout aux Arabes des droits, même des droits qui seraient équivalents à ceux des Libyens. Il conclut même un ensemble de conventions bilatérales, également avec l'Algérie, le Maroc. Donc le traitement peut apparaître d'ailleurs assez favorable, mais on va voir que le traitement de ces étrangers va varier en fonction des aléas diplomatiques en réalité. Lorsque la Libye a de bons rapports avec un État ou veut favoriser une union ou un rapprochement, eh bien, il y a une politique d'accueil. Et puis, ceci va s'alterner avec des périodes, notamment d'expulsion collective, pour sanctionner, par exemple, un pays avec lequel il y a des différends.
Oui, en quelque sorte, et vous l'écrivez dans votre article, Delphine Perrin, la composition de la main-d'œuvre étrangère est orientée par les ambitions extérieures de Kadhafi.
Oui, exactement. Alors, j'insiste sur orienter parce que il est important de dire que la politique ne suffit pas à faire l'immigration, on le voit bien actuellement. Mais effectivement, la politique va l'orienter et puis surtout Kadhafi saura très bien utiliser l'immigration dans le cadre de ses ambitions extérieures. Donc initialement, dans le cadre de sa politique pan-arabiste, donc dans les années 80, la main-d'œuvre en Libye était à moitié étrangère. 90% de cette main-d'œuvre était d'origine arabe.
Oui, le Maghreb, pour faire court.
Oui, en incluant l'Égypte également.
Maghreb-Mashrek.
Voilà, Maghreb-Mashrek. Et puis, on a aussi des sahéliens dans le cadre, parce qu'il y a aussi une politique pan-sahélienne de Kadhafi, notamment hégémonique au Tchad et au Niger. Et puis, plus tard, une diversification de cette main-d'œuvre, parce que Kadhafi, notamment, aura une politique plus panafricaniste.
Oui, justement, le changement de stratégie, je crois, c'est dans les années 90. La Libye fait appel à une main-d'œuvre, pour faire simple, moins arabe et plus africaine. Pourquoi ?
Alors, dans le cadre d'une réorientation de la politique extérieure de la Libye, parce que les années 90 conjuguent tout un ensemble de facteurs. Donc, bien sûr, il faut rappeler qu'il y avait déjà une immigration africaine, comme je l'ai dit, du voisinage. Et puis, il faut dire aussi que dans cette période-là, la Libye commence à connaître des difficultés économiques et notamment est soumise à l'embargo international à partir de 1992. Donc d'abord, il y a une volonté à cette époque de réduire l'immigration étrangère et, entre guillemets, de mettre les Libyens au travail, si je puis dire, en libyanisant l'emploi. Mais pourtant, Kadhafi continue à appeler à des bras extérieurs, notamment des bras africains, qui irait au-delà de la zone de voisinage, et ceci parce que, en premier lieu, il est déçu de sa politique pan-arabe, il est déçu du peu de soutien des pays arabes à l'encontre de l'embargo qui frappe la Libye, alors qu'en parallèle, les États africains montrent de plus en plus de soutien. Donc, dans le cadre, finalement, effectivement, d'une réorientation de sa politique étrangère, on se souvient que Kadhafi a lancé la CENSAD en 98, la communauté des États sahariens, avec le projet de liberté de circulation, d'ailleurs, dans cet espace. Il participe à la transformation de l'OUA en Union africaine, dont il voudrait d'ailleurs prendre le leadership. Il investit dans les pays africains, etc. Donc, dans le cadre de cette politique africaine, eh bien, comme toujours, les migrants sont un instrument. Il promeut l'ouverture de son marché du travail également aux Africains, par exemple, de l'Ouest.
Alors justement, ces migrants, est-ce qu'ils viennent en Libye pour des raisons économiques, en gros pour trouver du travail, ou alors pour une question de survie sociale, parce qu'il y a un certain nombre de guerres qui se déroulent sur le continent africain à cette époque ?
Alors là, effectivement, donc ça montre aussi que la politique ne suffit pas. Dans les années 90 et début des années 2000, il y a tout un ensemble de facteurs qui favorisent aussi la venue d'Africains. D'abord, eh bien, comme vous venez de le dire, il y a tout un ensemble de conflits et d'instabilités qui se développent, notamment en Afrique de l'Est. Donc, on le sait encore aujourd'hui, il y a de nombreux Soudanais, qui étaient déjà aussi présents pour une part, mais d'autres viennent, des Érythréens, des Somaliens qui viennent dans le pays, qui ont, disons, toutes les caractéristiques des réfugiés, mais qui vont, puisque le droit d'asile n'est pas reconnu en Libye, ils vont finalement y vivre comme des migrants économiques. Et puis dans d'autres parties de l'Afrique, comme par exemple en Afrique de l'Ouest, on a la raréfaction de marché du travail. Par exemple, le grand marché du travail ivoirien se réduit du fait de l'instabilité. Donc ça pousse aussi des Ouest-Africains à aller plus loin, également en Libye, pour aller chercher du travail.
Mais est-ce que cette immigration a vocation à rester dans le pays comme la précédente immigration venue du Maghreb ou d'Égypte ?
Alors, vocation, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a vu en 2011, lorsque des centaines de milliers d'étrangers ont fui le pays, que finalement, beaucoup étaient là depuis 10, voire 20 ans. Donc, c'était installé. C'est-à-dire que, quelle que soit l'origine de l'immigration en Libye, certains viennent temporairement, même quand ils viennent d'Afrique de l'Ouest. Ça peut être en attendant d'aller ailleurs ou de revenir chez eux. Et quand ils ont toutes les conditions favorables, peuvent s'installer. En revanche, on sait que les conditions d'installation se sont considérablement dégradées. Déjà dans les années 90, j'ai omis de dire précédemment que l'immigration africaine, elle s'est fait différemment que l'immigration arabe, c'est-à-dire que elle est employée dans des emplois subalternes, principalement le bâtiment, le nettoyage également, et de manière informelle. Ce qui va accentuer son image négative, puisque ça s'ajoute, elle va aussi rencontrer un fort racisme de la population libyenne.
Oui, avec une précarisation de la situation des migrants.
Oui, exactement. Une précarisation sur tous les plans économiques, sociaux, et qui va pousser certains, même les personnes effectivement qui étaient déjà installées, à partir, donc soit dans la région, soit effectivement vers l'Europe.
Mais Delphine Perrin, à quel moment cette question migratoire est-elle utilisée comme moyen de pression par le colonel Kadhafi vis-à-vis de l'Europe ?
Eh bien justement, à cette époque, fin des années 90, début des années 2000, on a une conjugaison de facteurs. D'abord, la Libye est depuis près de 10 ans sous embargo international, donc avec des difficultés économiques qui s'accroissent. Et Kadhafi veut revenir sur la scène internationale, donc voudrait séduire l'Europe. Et à la même époque, l'Union européenne demande aux États maghrébins de contribuer au contrôle des frontières européennes. Donc la Libye va se montrer partante. Kadhafi va déclarer que la Libye elle-même est envahie d'Africains, mais qu'il est dans l'incapacité de contrôler ses frontières. Que pour en être dans la capacité, il a besoin d'aide financière, il a besoin notamment de livraison de matériel militaire, etc. Donc il va y avoir ce double discours politique de Kadhafi, vis-à-vis de l'Afrique, toujours pour la libre circulation et anti-impérialiste, et vis-à-vis de l'Europe, prêt à contrôler les frontières.
Orient Hebdo sur RFI.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Nous sommes en compagnie de Delphine Perrin, chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement, pour évoquer la question migratoire en Libye. Delphine Perrin, la migration d'installation pour le travail dans les années 80 devient progressivement une migration de passage dans les années 2000, on l'a dit à l'instant. Qu'est-ce qui fait que finalement la Libye devient ce hub de transit vers l'Europe ?
Alors là aussi, c'est une conjugaison de facteurs et un processus. D'abord, il faut dire que c'est dans tout le Maghreb qu'il y a un développement du passage, enfin de ce qu'on va appeler la migration de transit. On doit dire qu'il y a une augmentation des causes de départ en Afrique, que ce soit pour des raisons politiques, sociales, économiques, etc. Et en même temps, il y a une restriction des possibilités d'entrée légale en Europe, qui fait que donc se développe la migration irrégulière et de transit dans tout le Maghreb. Dès le début des années 2000, des mesures vont être prises par les voisins de la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, pour justement empêcher les sorties du territoire, que ce soit des nationaux ou des étrangers. Donc c'est vrai que pendant un temps, on va avoir des arrivées en Libye de ceux qui sont bloqués finalement dans ce qu'on appelle la voie occidentale, avec la possibilité ou l'espoir que ce soit plus ouvert en Libye, sachant que se développe bien sûr tout un trafic illicite en parallèle du développement des obstacles à circuler. Et puis enfin, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui étaient déjà en Libye, dont les conditions de vie se sont dégradées et qui vont penser à un départ vers l'Europe.
Est-ce que l'on peut réellement faire la distinction entre migration de travail et migration de transit ?
Oui, alors c'est effectivement tout le problème de discours actuels qui vont tendre à catégoriser en fait les individus et les parcours. Et puis d'ailleurs, on doit aussi ajouter qu'il est très difficile de distinguer la migration de travail et la migration de refuge. C'est particulièrement le cas en Libye, où les réfugiés vivent comme des migrants économiques.
Parlons maintenant, Delphine Perrin, de l'enfer libyen. De quoi s'agit-il et quel est, selon vous, le sens de cette formule choc ?
Oui, alors le parcours de la formule est intéressant. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de terminologies autour de la migration. C'est qu'initialement, l'idée d'enfer libyen et le terme a été utilisé par des ONG, notamment Amnesty International, d'abord pour mettre le doigt sur la situation en Libye, donc les traitements difficiles des personnes sur place, mais surtout pour faire pression auprès de l'Union européenne pour qu'elle cesse de collaborer avec la Libye, qu'elle cesse d'y renvoyer les personnes, et pour montrer aussi que la politique européenne de blocage contribuait à cet enfer. Et aujourd'hui, en fait, on voit que les autorités européennes se sont appropriées le terme d'enfer libyen, mais pour soutenir leur politique de blocage des frontières.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de schizophrénie du côté de l'Europe à décrire la Libye comme un enfer migratoire et parallèlement à vouloir absolument y renvoyer les migrants dont l'Europe ne veut pas ?
Bon, c'est effectivement tout le cynisme des politiques actuelles, puisqu'effectivement, utiliser l'expression « enfer libyen » et tout ce que cela véhicule permet pour les gouvernements européens de justifier d'empêcher les arrivées en Libye, notamment à partir du Niger, par exemple, qui maintenant empêche les traversées vers le nord, et puis aussi de favoriser les politiques de sédentarité et les discours de sédentarité en Afrique, et en même temps n'empêche pas de renvoyer les personnes en Libye. Donc ça montre simplement que l'Union européenne a absolument envie de compter sur la Libye pour empêcher tout départ. Et moi, je ne parlerai pas seulement d'ailleurs de schizophrénie, parce qu'en fait, la politique européenne favorise, en grande part responsable de cet enfer, puisque c'est quand même l'Europe qui a demandé aux Libyens de détenir les migrants, qui leur demande d'aller chercher les personnes en mer et de les ramener sur le territoire libyen, de procéder au contrôle, etc. Donc qui renforce finalement l'acteur libyen, y compris lorsqu'il participe au trafic.
Oui, vous l'écrivez, l'Italie et aussi le reste de l'Europe a peu transféré cette responsabilité de surveillance des mers, de sauvetage des personnes également, à la Libye. Est-ce que la Libye a les moyens d'assumer ce transfert ?
Oui, alors avant tout, je rappellerai aussi que c'est d'abord parce que l'Italie se sent surresponsabilisée au sein de l'Europe et qu'elle n'y a pas trouvé de solidarité, qu'à son tour, elle tente de transmettre la responsabilité aux acteurs libyens, déjà pour se dédouaner de toute responsabilité, pour qu'on ne puisse plus, comme ça a été le cas en 2012, mettre en cause sa responsabilité pour le renvoi de migrants, et puis elle ne veut plus de débarquement en Italie. Donc la Libye, est-ce qu'elle en a la capacité ? Il faut dire que les Libyens ne voulaient pas s'occuper de ce sauvetage en mer. L'Italie a fait pression, donc la Libye a finalement maintenant sa zone de secours et a déclaré son centre de coordination. Donc elle procède maintenant véritablement à des interceptions et à ce qu'on appelle donc des sauvetages en mer pour les ramener sur son territoire. Et l'Union européenne et l'Italie, pour se dédouaner, si on peut dire, ont beaucoup développé ce qu'on appelle le renforcement des capacités, que ce soit des gardes-côtes ou de la marine, pour les former au sauvetage et notamment au respect des droits humains, sachant que ceci fait l'impasse d'abord sur le droit libyen en l'état qui ne reconnaît pas le droit d'asile, qui fait l'impasse sur les pratiques, des pratiques très ancrées, hein, notamment de racisme, de non-respect, etc. Et puis la situation sécuritaire, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne se soucie pas beaucoup de ce que deviennent les migrants ramenés en Libye.
Oui, justement, c'était ma question suivante. Qui se soucie des migrants qui, à l'aller, sont aux mains des passeurs et au retour, prisonniers, et souvent d'ailleurs de milices ?
Alors, il faut quand même souligner que plus les États européens se sont dédouanés, si on veut, plus la société civile s'est mobilisée. Donc, il y a quand même beaucoup de bateaux humanitaires qui essaient tant bien que mal, ou même d'avions, de sauver les personnes. Alors, c'est vrai que peu se soucient sinon de ce que deviennent les individus, mais en revanche, beaucoup se soucient des migrants en tant qu'instruments. Parce qu'on peut dire que toute cette situation a créé un ensemble de marchés dont profitent beaucoup d'acteurs. Les acteurs libyens, bien sûr, avec des financements, notamment avec le développement des trafics auxquels participent également, d'ailleurs, certaines personnes participent au trafic et participent au contrôle. Et puis même du côté européen, beaucoup d'acteurs maintenant sont impliqués dans tout ce marché du contrôle et du renforcement des capacités.
Finalement, est-ce que l'on peut parler de double fantasme dans ce phénomène migratoire en Libye ? D'une part, l'aventure côté africain et d'autre part, l'invasion côté européen ?
Oui, des fantasmes effectivement qui perdurent et qui sont maintenant bien ancrés. Celui de l'invasion, le fantasme de l'invasion, on le voit encore bien actuellement en Europe, où on voit qu'on aurait toutes les difficultés du monde à pouvoir changer d'approche, à pouvoir changer d'angle, tant à l'échelle nationale, les États, les partis politiques utilisent constamment ce vocabulaire d'invasion et cette peur de l'invasion à l'arrivée d'élections ou dans leur politique nationale. Donc il est entretenu, hein, ce fantasme de l'invasion dans les États, également dans les médias. Et puis le fantasme de l'aventure, là aussi, qui perdure malgré tout, malgré toutes les campagnes d'information, malgré les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que les personnes ont l'information, savent ce qui les attend en Libye ou en Europe. Mais d'abord, on voit que ces politiques favorisent le désir. On désire d'autant plus ce dont on nous refuse l'accès, ce qu'on nous cache. Et puis surtout, les raisons de partir, elles sont tout aussi nombreuses, que ce soit en Libye ou ailleurs. On voit encore récemment avec les processus électoraux en Guinée ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs, les personnes ont de moins en moins d'espoir de pouvoir changer les choses chez eux. Et l'Europe contribue d'ailleurs à cet état de choses, à cette stabilité.
Merci Delphine Perrin, chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement.
Merci Eric Bataillon.
À lire dans le dernier numéro de la revue trimestrielle Moyen-Orient consacré à la Libye, votre article « Pouvoir et vulnérabilité, la fabrique d'un espace migratoire libyen fantasmé ».
Autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge avec